Voilà, j'aimerais partager une courte parole qui me poursuit depuis l'été, depuis le début de l'été, que j'ai partagée donc au Château Blanc au début du mois, dans la retraite, dans sa présence. Donc, je m'excuse auprès de deux ou trois qui l'ont déjà entendue, mais je n'arrivais pas à passer à autre chose pour le message ce matin. Donc j'avais vraiment cette conviction que cette parole, elle est pour toute l'Église aussi, que... Surtout après le message de Rémi, dimanche dernier, après la prière de Robert et Pascal, je sentais que c'était vraiment tout à fait aligné avec. Alors cette parole, c'est une parole d'Apocalypse aussi. Oui. Dieu parle beaucoup par le livre de l'Apocalypse en ce moment. C'est Apocalypse 3, verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Et il y a une promesse, je te garderai à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Cette parole est tirée donc d'une lettre aux sept églises, une des sept églises, dans les premiers chapitres. Hein. La lettre à l'église de Philadelphie. Je suis convaincu que les lettres aux églises s'adressent aux églises de tous les temps, mais qu'elles sont particulièrement percutantes pour ces derniers temps aussi. Ouais. Alors pour saisir le contexte, je vais lire à partir du début de la lettre, hein, c'est-à-dire donc à partir du verset 7, Apocalypse 3, d'accord ? « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. » Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les fais venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je crois que le Seigneur nous dit, mon enfant, hein, je t'invite à garder la parole de la persévérance en moi. Alors j'ai dit, Seigneur, mais dis-moi tout ce que ça contient, ça persévérer en toi. Et je vous propose quatre paroles qui vont plus profondément dans la signification de cette invitation. Je vous dis ce que je crois avoir entendu de l'Esprit Saint. Et à ces quatre paroles, je rajouterai deux promesses qui sont dans ce petit paragraphe qu'on vient de lire hein, aussi. La première parole, persévère dans la vision de qui je suis. Persévère dans la vision de qui je suis. Comment voyons-nous Jésus quand on le prie? Et je crois que Robert vient de nous inviter. Il nous a dit montons. Et je crois que c'est quelque chose que le Saint-Esprit est en train de nous dire en ce moment. Montez. Montez pour voir Jésus comme Jean le voit dans le livre de l'Apocalypse. Quand nous prions Jésus, est-ce que nous le voyons comme le Saint, le véritable, celui à qui tout pouvoir a été donné? Personne n'ouvre ni ne ferme après lui. C'est dans cette lettre qu'on vient de lire. Voyons-nous Jésus comme le premier et le dernier, l'alpha, l'oméga. Celui qui est le Fils de Dieu, qui était mort, qui est revenu à la vie, le seul qui puisse ouvrir le livre de vie, le seul moyen de salut. Mais celui aussi qui est le maître des événements, le maître de l'histoire, j'ai eu l'occasion déjà de souligner ça dans un message précédent. Celui qui est plein de gloire, d'honneur, de puissance, de majesté, c'est comme ça que Jean le voit. L'apôtre Jean voit Jésus dans tout son éclat. Et c'est pour ça que le livre de l'Apocalypse a été écrit. Il est décrit, il nous décrit Jésus pour que nous le voyons comme il l'a vu, lui. Plein de gloire, de majesté. Nous devrions demander à Dieu de recevoir, plus souvent comme Jean, une plus grande révélation de Jésus. L'apôtre Jean n'était pas de son plein gré en exil, mais c'était pour lui l'occasion de vivre une belle expérience avec Dieu. Choisissons-nous de notre plein gré quelquefois de nous mettre à l'écart pour demander une plus grande révélation. J'en ai souvent parlé, j'ai dit qu'il y a des lieux, il y a le monastère de Bouvines, il y a le monastère du Mont des Cats, il y a des lieux vraiment pour se retirer, et il y a les lieux que nous pouvons choisir nous-mêmes aussi. Et le Saint-Esprit nous parle en ce moment, et jeudi dernier, on a encore prié, et c'était vraiment, on était invité à monter. Robert a partagé une image, mais je le laisserai lui partager au moment où il voudra vraiment. Mais une image qui nous invite à monter et à voir Jésus le ressuscité et à recevoir cette vie de résurrection pour que nos réalités soient augmentées. Ça sera peut-être, je pense, le thème d'un prochain message que je donnerai dans 15 jours, que nos réalités soient augmentées. Voilà, nous devons proclamer qui est Jésus dans nos cultes. Cela affermit notre foi, nous conduit dans une plus grande adoration et nous rend plus audacieux dans l'intercession. Vous êtes d'accord? La deuxième parole, qui résulte de la première aussi, et qui pour moi est très très importante aussi. Persévère dans l'annonce fidèle de qui je suis. Pas seulement dans la vision, mais dans l'annonce. Persévère dans l'annonce fidèle de qui je suis. Comment parlons-nous de Jésus autour de nous? Ouais. Comment nous en parlons? Est-ce que nous en parlons comme le seul par lequel je puisse être guéri? Le seul par lequel je puisse être sauvé? Le seul médiateur? L'annonçons-nous comme celui qui jugera les vivants et les morts, qui régnera, qui règne déjà, et qui régnera au siècle des siècles. L'annonçons-nous comme le Seigneur des Seigneurs. Méditons cette deuxième parole. Persévère dans l'annonce de qui je suis. Ne laisse pas l'ennemi mettre de la confusion dans cette annonce. Vous savez, il ne suffit pas de dire du bien de Jésus pour être ce témoin fidèle, mais il faut me mettre Jésus au véritable rang que lui donnent les Écritures. Et vous savez, l'ennemi cherche à nous faire taire, mais s'il ne peut pas nous faire taire, nous les chrétiens, il cherchera à ce que notre annonce voile l'identité véritable de Jésus. Et il cherchera à ce que notre annonce du salut soit confuse, voire même un retour dans notre annonce à un salut par les œuvres. Ouais. Jésus ne peut pas être réduit, vous êtes d'accord, à un simple prophète, ou à cette image d'un petit enfant dans la crèche, ou simplement d'un enfant dans les bras de sa mère. L'évangile reste bien une puissance de Dieu. Dieu me parle à ce niveau-là et je reconnais que moi, quelquefois, je suis timide dans cette annonce. C'est pas bien. Mais l'évangile perd sa puissance. Il perd sa puissance par notre mauvais témoignage de vie, bien sûr, mais aussi, il peut perdre sa puissance par une annonce voilée et confuse qui ne présente pas le Jésus glorieux, majestueux, des Écritures. J'avais mentionné au Chaton Blanc et je le rementionne maintenant. Vous vous souvenez qui a connu Billy Graham? Levez la main ceux qui ont entendu parler de lui. Oui, voilà. Voilà. Il y en a ici qui ont fait un pas décisif, Jacques et Christine, lors d'une campagne d'évangélisation, vous vous êtes levé, je me souviens, j'étais derrière vous. Il y avait une campagne d'évangélisation par satellite. Et vous vous êtes levé, bien sûr, Dieu avait préparé vos cœurs. Mais combien, chers amis, combien sont venus à Jésus par le ministère de Billy Graham? Parce que son message était clair, une annonce claire, fidèle. Autant il peut y avoir des télévangélistes qui ont foiré, hein, comme on dit un peu partout, autant Billy Graham était vraiment... Alors, je ne sais pas si Dieu va redonner des Billy Graham. C'est pas tellement ça, c'est pas forcément des ministères visibles. Mais Dieu veut redonner dans l'Église l'onction d'une annonce de l'Évangile claire. Claire. Qui replace Jésus au rang. Au rang là où il est placé par les Écritures. Moi j'étais saisi par... Chaque fois que j'écoutais Billy Graham, j'ai dit mais oh, c'est limpide, le message est limpide. Alors, l'Apocalypse est un livre pour nous réajuster. Nous réajuster pour le retour du Seigneur. Réajuster, c'est un mot-clé qui était cité le premier jour de cette retraite au Château Blanc. Dieu voulait nous réajuster. Et je pense que Dieu veut nous réajuster, un, dans une vision claire de qui est Jésus. Deux, dans une annonce claire, fidèle, de qui il est. Dieu veut nous sommes dans un temps de réajustement. J'ouvre une parenthèse pour dire combien je bénis le Seigneur de ce que nous sommes ici à Wavrin, en train de retrouver notre appel missionnaire. Ici à Wavrin, merci aux meneurs dans cet appel et que le Seigneur a rajouté à l'Église. Robert et Sylviane, depuis 3-4 ans, Pascal et Michel. Et je bénis le Seigneur pour ça. Nous sommes renouvelé dans notre appel missionnaire. Merci à tous ceux, bien sûr, qui s'incarnent et rayonnent fidèlement dans toutes les communes que nous représentons ici. Je ferme la parenthèse et je termine ce point en disant, il nous faut annoncer l'Évangile avec assurance. Vous vous souvenez mon dernier message où j'ai rappelé la prière des apôtres dans Acte 4 qui ont eu cette menace, pas étonnant, évidemment. Défendons-leur de parler de Jésus, ils ont reçu comme menace. Et quelle était la réponse? Quelle était la prière des apôtres? Maintenant, Seigneur, vois leur menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Voilà la prière que nous devons adresser. Voilà, le Seigneur veut nous affranchir de toute timidité, toute crainte, pour que nous n'annoncions pas un évangile voilé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de la sagesse. On va pas, le premier musulman, on ne va pas lui dire de le blanc dans les yeux. Tu sais, Jésus est le Fils de Dieu d'un seul coup. Bien sûr, hein, y a de la sagesse, hein, bien sûr. Demandons à Dieu qu'il nous réajuste en tant que témoins, pour que nous soyons des témoins fidèles, par notre vie sainte, hein, Dieu aussi nous parle à ce sujet, et par une annonce claire de Jésus. Troisième parole que je crois entendre du Saint-Esprit à travers cette invitation à persévérer, à garder la parole de la persévérance en Jésus. Troisième parole, ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire. Ce sont les premiers mots que Jésus a prononcé devant ses disciples quand ces derniers lui ont posé la question « Quels seront les signes de ton avènement ?»« Que personne ne vous séduise », avait dit Jésus. Et cette séduction, assurément, elle concernera tout ce qu'on vient de dire en peu de mots. La gloire de Jésus voilée, un message du salut voilé, de faux messie, de faux Sauveur. Entendons ce que disent les Écritures. Je vous cite 3-4 versets. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Colossiens 2,18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Galates 1,8. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, prêché, qu'il soit anathème. Et dans une lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul met en garde sur le fait que Satan peut se déguiser en ange de lumière. Alors soyons vigilants, car l'ennemi a de la haine pour Jésus. Il sait ce que signifie pour lui le nom de Jésus. Sa perte, son jugement final dans les temps de feu. Et il essaye d'entraîner les âmes à sa suite, loin de Jésus. Il essaye de proposer une foule de docteurs, de guérisseurs. Pierre nous prévient dans ses épîtres. Les gens se donneront une foule de docteurs, de guérisseurs. Encore un passage, 1 Thessaloniciens 5,21. J'aime beaucoup ce passage, je l'ai dit au Château Blanc, j'aime l'équilibre de cette parole. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. J'aime l'équilibre parce que examiner toutes choses, ça veut dire reste constamment vigilant, mais retiens ce qui est bon. C'est-à-dire tu peux être vigilant sans être quelqu'un qui ne retient que le mauvais, qui ne parle que de ce qui est mauvais, qui passe pour celui qui cherche constamment la petite bête, partout, celui qui a peur de tout, celui qui entraîne les autres à avoir peur de tout. Il ne faut pas tomber dans ce déséquilibre non plus. Il ne faut pas que cet appel bien réel à ne pas nous laisser séduire nous amène à ce déséquilibre en oubliant de retenir ce qui est bon. Voilà. Soyons vigilants, mais soyons capables de retenir ce qui est bon, de voir ce que Dieu cherche à faire, même dans des situations catastrophiques, des situations difficiles, de voir l'action du Saint-Esprit. Même dans des situations les plus graves, les plus catastrophiques, oui, Dieu suscite des initiatives et des témoins. Notre pays va mal, mais Dieu suscite des témoins. Dieu suscite, Dieu parle. Est-ce que vous voyez l'action du Saint-Esprit ? On entend parfois des témoignages bouleversants de gens du spectacle qui sont touchés, de gens qui ont une autorité, qui sont touchés par Dieu. Donc ne te laisse pas séduire, troisième parole. J'ai oublié de dire que forcément notre annonce fidèle va gêner beaucoup, va gêner l'esprit humaniste qui est autour de nous. Lui enfin, il va nous traiter d'orgueilleux et de présomptueux, de pouvoir dire Jésus, le seul chemin, enfin. Ce n'est pas politiquement correct de dire ça et d'annoncer ça aujourd'hui. Et c'est ça la quatrième parole, persévère, en supportant patiemment la souffrance à cause de cette annonce. Quatrième parole, persévère en supportant patiemment la souffrance à cause de cette parole. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, se dit littéralement, parce que tu as gardé la parole de ma patience. C'est parce que devant Caïphe et tout le Sanhédrin que Jésus a déclaré qu'il était le Fils de Dieu, que là, sa mort était arrêtée. Caïphe a déchiré son vêtement. Quoi, je ne peux pas entendre ça, c'est pas possible. Parce que les premiers disciples ont osé annoncer Jésus, Fils de Dieu, crucifié, ressuscité des morts, roi des rois, Seigneur des seigneurs, celui à qui tout était soumis, qu'ils ont été persécutés. Dans sa lettre à Timothée, Paul le dit clairement, hein, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je lisais sur internet une parole de Billy Graham qui disait aux Américains, préparez-vous à la persécution, préparez-vous. On aura à souffrir d'oser affirmer qui est celui en qui nous croyons. Résistons à l'intimidation. Considérons que c'est une grâce de souffrir pour Christ, de souffrir avec lui. Et n'oublions pas cette parole de Paul que les souffrances du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. Voilà, j'en arrive à la conclusion avec ces deux promesses qui sont dans la lettre là, à l'église de Philadelphie. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, voici j'ouvre devant toi une porte que personne ne peut fermer. En quelque sorte, nous dit le Seigneur, si dans tes circonstances tu fais preuve d'humilité, c'est ça que ça veut dire peu de puissance, parce que tu fais preuve d'humilité dans une foi authentique, tu ne t'appuies pas sur tes forces, mais tu t'en remets entièrement à Jésus, alors j'ouvre devant toi une porte. Vous savez que cette parole, elle était une parole phare et repère pour moi et pour toute l'Église pendant des années. C'est la promesse du fruit. Nous ne devons pas douter du fruit lorsque nous gardons la parole de la persévérance en Jésus. D'accord ? Ne doutons pas du fruit. Et deux, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai alors de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. En quelque sorte, nous dit le Seigneur, si tu résistes maintenant, si tu apprends à résister maintenant, tu seras gardé à l'heure de la grande tentation. On ne sait pas trop ce que c'est. Une séduction, une grande séduction, certainement. Hein ? Si tu résistes maintenant dans ton attachement à Jésus, à ce qu'il est véritablement, tu feras partie des vainqueurs. Amen. Amen. J'aimerais prier, et puis ensuite, j'aimerais ensemble qu'on fasse une proclamation. Au Château Blanc, Étienne était inspiré de nous encourager à une proclamation, tu te souviens, Pascal? Et on va passer à cette proclamation après, ensemble, une courte proclamation. Mais je vais prier avant, je vous invite à fermer les yeux. Voilà. Seigneur, nous accueillons ce temps de réajustement. Nous comprenons que nous avons besoin de nous réajuster pour mieux résister au vent impétueux qui souffle et qui risque de souffler encore plus fort. Nous voulons être réajustés dans la vision de qui tu es. Jésus glorieux, plein d'éclat, avec ta vie de résurrection. Seigneur, donne-nous une plus grande révélation encore. Nous voulons être réajustés dans l'annonce de qui tu es. Le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui viendra juger le monde, à qui tout pouvoir était donné. Nous voulons prendre garde de ne pas nous laisser séduire ou intimider. Et acceptons de prendre notre part de souffrance qui résulte de notre attachement à toi, de notre fidélité. Oui, Seigneur, nous voulons garder la parole de la persévérance en toi. Certains du fruit et certains de ta protection. Amen. Je vous invite à vous lever. Est-ce que vous seriez d'accord? Simplement qu'on dise cette phrase tous ensemble. Cette phrase, Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, je promets de dire la vérité et rien que la vérité sur Jésus-Christ. Ouais. Est-ce qu'on peut proclamer ça? Ouais. Je le répète pour qu'on l'ait bien en tête. Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, ne le dites pas maintenant, je promets de dire la vérité et rien que la vérité sur Jésus-Christ. Amen. On le dit tous ensemble. Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, je promets de dire la vérité et rien que la vérité sur Jésus-Christ. Amen. Amen.